Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Timothy Treadwell décide assez jeune de consacrer sa vie à la protection des grizzlies. Il passe la majeure partie de son temps dans la réserve naturelle de Katmai dans le sud de l'Alaska. Il y campe 13 étés de suite. Il aime particulièrement cette grande plaine de hautes herbes sur la côte qu'il appelle le sanctuaire des grizzlies. Il les observe, il leur parle, il s'en approche au plus près de ce que peut un homme. Il leur donne des petits surnoms à 5 d'entre eux surtout qu'il fréquente, Grincheux, Tante Mélissa ou Monsieur Chocolat. Il plaisante avec eux, il joue, il les photographie, les filme et se filme avec eux. Werner Herzog lui consacre un documentaire, Grizzly Man, qui doit une partie de son génie à toutes ces images tournées par Treadwell, lui-même, libre et un peu folle. On y voit la relation empathique, fusionnelle, qu'il noue avec ses ours connus pour leur dangerosité. Enfin, il n'aimerait pas qu'on dise ça de ces grizzlies qu'il appelle ses amis. Dans une scène fameuse, tandis que Treadwell s'adresse à la caméra pour parler de Grincheux, le grizzly se rapproche de façon menaçante. Treadwell se retourne alors vers Grincheux, qui fait, je le rappelle, potentiellement 2,70 m de haut et 250 kg au bas mot, et il lui donne un petit coup sur le museau pour le faire reculer et éviter de se prendre un coup de patte fatal. Tandis que l'ours bat en retraite, Treadwell ne cesse de lui parler, on imagine pour maintenir le contact, et il lui dit « je t'aime, pardon, je suis désolé, je t'aime », enfin en anglais. Il mène aussi un combat épique contre l'administration des parcs nationaux qui n'apprécie guère ses campements annuels. Il se filme volontiers en train de les insulter avec grandiloquence, rappelant ainsi les héros du cinéma américain se battant pour une juste cause. À la fin du 13e été, le 5 octobre 2003, tandis qu'il campe avec sa petite amie à l'endroit habituel, ils sont tous deux attaqués par un ours brun de 28 ans, abattu quelques jours plus tard. La caméra de Treadwell tourne à ce moment-là, en tout cas le son fonctionne, mais les 6 minutes de leur agonie ne seront jamais diffusées. Le film de Werner Herzog, qui raconte sans le juger cette vie parmi les ours, et sa mise en scène connaît en revanche un succès international. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, 3 autres histoires qui parlent de ceux qui ont vu l'ours. Elles sont racontées par Claudia Prolongeau.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Camille, je suis biologiste de formation. Donc je travaille sur le terrain avec les animaux un peu partout dans le monde, principalement sur les pinnipèdes. Donc tout ce qui est otaries et phoques, et aussi beaucoup sur les oiseaux marins. J'ai travaillé beaucoup dans les zones polaires, Kerguelen, Bird Island. Je me souviens très bien de la première fois où j'ai rencontré Julien. En fait, c'était un compositeur d'une 40aine d'années quand on s'est rencontrés à Kerguelen. On s'était bien entendu, on avait bien accroché, et à peine arrivé, il était parti. On allait à la cabane de Ratmanov, qui en fait est une colonie de manchots royaux. C'est vrai que les gens, je pense, pouvaient un peu le prendre effectivement pour un illuminé, parce qu'il avait une relation à la musique qui pouvait être très différente de beaucoup de gens. Quand il entendait le chant des oiseaux, quand il entendait les éléphants de mer, les otaries, etc., pour lui, c'est... En fait, il entendait des instruments qui créaient une musique. Quand on s'est rencontrés, il parlait de ce projet de partir au Canada, descendre la rivière Mackenzie, qui fait un peu plus de 2000 km de long. Et qui part du lac des Esclaves dans le territoire du Nord-Ouest. Et en fait, son rêve, c'était vraiment de parcourir tout ce trajet en canoë pour arriver jusqu'au nord, jusqu'à l'océan. Et bah, du coup, il m'avait proposé ça parce qu'il sait que j'aime bien être dehors, j'aime bien les idées un peu folles. Et puis, on s'est toujours très bien entendu, donc on s'était dit que c'était une super idée. Et voilà, on est parti début août, on est parti à Yellowknife, qui est dans les territoires du Nord-Ouest. C'est à peu près la seule ville où on peut arriver par avion. Et on a commencé le 3 août à faire du canoë. Pour le campement, en fait, on avait une seule tente, on dormait dans la même tente, une petite tente de rando, 2 places. Donc généralement, on posait la tente et puis on mettait toujours la nourriture plus loin, donc on mettait environ une centaine de mètres ou un peu plus selon l'endroit. Et c'est aussi là où on mangeait, où on mettait toutes nos affaires en fait qui peuvent attirer tout ce qui est dentifrice, brosse à dents, etc. Enfin, toutes ces choses-là, ça peut attirer les animaux, donc en général on les met de manière hermétique pour éviter justement les odeurs. Nous, on avait une touque, enfin c'est une sorte d'un bidon en plastique, et bon, on avait toute notre nourriture là-dedans. C'était principalement de l'avoine et du couscous, et Julien beaucoup de barres de céréales parce qu'il avait besoin de manger beaucoup. Le jeudi 15 août, on s'était arrêté sur une plage pas très loin du village de Tulita, à 60 km, parce qu'il y avait trop de vent. Du coup, on a décidé de se mettre là en attendant que ça passe. On s'était dit, enfin, il était peut-être 8 ou 9 heures du matin quand on s'est arrêté. Donc, on s'est dit, bon, bah, peut-être que ça va se calmer et on repartira dans la journée. Et en fait, ça s'est pas calmé avant 21h. C'était un magnifique coucher de soleil. On s'est dit, bon, bah, pour une fois, on profite du coucher de soleil et voilà. Donc ouais, on a juste fait un peu de photographie, lui il a enregistré quelques sons parce que justement la soirée était très calme. Jusqu'au matin, on dormait et en fait on s'est réveillé c'était aux environs de 7h du matin parce que moi je venais de regarder ma montre pas longtemps avant et ben en fait on s'est réveillé parce que la tente s'écrasait sur nous. Je savais très bien que c'était un ours, il n'y a pas d'autre animal qui pourrait... Enfin, ou un cerf, mais enfin, la manière dont c'était... Oui, clairement, j'ai compris que c'était un ours qui nous attaquait. Pour moi, c'était clair que ce comportement-là, c'était un comportement de prédation, qu'il était venu là pour ça, et qu'il n'y avait aucune nourriture dans la tente. Là, toute la nourriture était loin de la tente. Donc la seule chose qui pouvait l'attirer dans la tente, c'était clairement nous. Et en fait, très rapidement, Julien s'est mis à crier. Donc moi, j'ai essayé de lui dire « Fais pas de bruit, calme-toi ». Généralement, ça les calme. En fait, une des techniques pour qu'ils partent, qu'ils perdent l'intérêt, c'est de faire le mort, d'arrêter de faire du bruit. Donc, je lui ai dit de faire ça. Et en fait, il m'a dit, il m'a attrapé. Et au bout d'un moment, le grizzly a déchiré la tente et l'a emporté avec lui sur la plage. Et en fait, il le traînait. Et, moi, j'étais enroulé dans la tente. J'ai essayé de sortir de la tente pour voir ce qui se passait, et on avait ce qu'on appelle un bear spray, donc c'est pour faire fuir les ours. C'est une sorte de bombe au poivre, etc. Et donc j'essayais de la trouver, mais avec tout ça, elle était un peu perdue. Et tant que je la trouve, en fait, l'ours l'avait déjà traîné sur la plage, et il était en train d'essayer de monter un talus pour partir dans la forêt. Donc moi, j'ai attrapé la bombe et je suis partie. Enfin, j'ai suivi l'ours. J'avais aussi attrapé une pagaie pour essayer de faire du bruit. Donc je tapais les pagaies parce que beaucoup d'animaux détestent les bruits métalliques. Donc j'essayais vraiment de faire du bruit, mais clairement, il était là pour prédater. Enfin, il en avait rien à faire que je fasse ça, quoi. Je l'ai suivi à un moment dans la forêt. J'étais pieds nus. J'avais complètement oublié de prendre des choses. Et... Donc, je l'ai perdu. Et Julien, en fait, à ce moment-là, a arrêté de m'appeler. Parce qu'il m'appelait à l'aide. Et du coup, là, il ne m'appelait plus à l'aide. Donc, j'arrivais plus à le localiser. Je suis reparti à la tente pour m'équiper, mettre des affaires et pouvoir le suivre. Puis, bon, honnêtement, j'étais terrifié. Et en fait, à ce moment-là, quand je retournais au canoë, il y a des gens qu'on avait croisés quelques jours plus tôt qui arrivaient en canoë aussi. Et je les ai appelés à l'aide, ils sont arrivés. Et en fait, on a fouillé la forêt ensemble, mais on n'arrivait pas à le trouver, on a perdu la trace. En fait, on tournait en boucle, on n'arrivait pas à trouver la trace. Eux, ils avaient ce qu'on appelle un spot, c'est une sorte de système d'alarme pour dire qu'on a un problème. Donc ils l'ont déclenché pour appeler les secours. Et dans la matinée, je sais pas, peut-être autour de 11h ou midi, les secours sont arrivés en hélicoptère. Et de toute façon, je savais très bien que... Quand j'entendais plus Julien m'appeler à l'aide, je savais très bien que même s'il le retrouvait, il le retrouverait en vie, ça c'est sûr. Quand ils ont retrouvé le corps de Julien, l'ours était toujours là. Et malheureusement, dans ce cas-là, il faut abattre l'ours. Parce qu'en fait, c'est un ours qui a goûté à l'être humain. Et... On considère que dans ce cas-là, il y a de fortes chances qu'il réattaque un être humain. Moi, clairement, j'avais pas envie qu'ils abattent un ours, mais je comprends qu'ils l'aient fait. Enfin, surtout à proximité d'un village. De toute façon, on a beau connaître les animaux très bien, on pourra jamais. C'est comme avec les humains. On connaîtra jamais ce qui se passe dans la tête d'un être vivant. Donc, malheureusement, c'est un peu comme. Il y a des individus chez les humains, c'est pareil, qui vont avoir un problème et qui vont attaquer sans raison. Et ça arrive, c'est comme ça, on peut pas le savoir. J'arrive pas à voir quelle erreur on aurait pu faire, particulièrement étant donné qu'on gardait toute la nourriture à l'extérieur, qu'on se mettait toujours loin des zones. On était vraiment sur la plage, donc loin des baies. Il y avait rien autour qui pouvait l'attirer en termes de nourriture dont lui, il pourrait se nourrir. Donc, non, mais voilà, c'est juste, on est tombé au mauvais endroit, au mauvais moment, je dirais. Je pense que oui, c'est difficile à accepter, parce que forcément, on s'en veut, on se dit qu'on aurait pu faire plus, j'aurais peut-être pu réussir à le récupérer, ou, enfin, bien sûr, on se pose ce genre de questions. Ça changera pas grand-chose, on a du mal à travailler ça dans sa tête. Le plus souvent, c'est de parler de Julien qui me fait du bien, surtout. Enfin, parce que c'est ça que j'ai envie de garder, tous les bons moments qu'on a eus ensemble et tous les. Enfin, voilà, ce voyage, moi, ce que je veux en garder, c'est que. Qu'on avait vécu des super moments, qu'on s'est vraiment éclaté et que, il a réalisé un de ses rêves. Et. De toute façon, tous les deux, on aimait vivre dans ce genre d'endroit, on aimait découvrir ce genre de zone. Et forcément, quand on va dans ces zones. On prend un risque, c'est comme les gens qui adorent l'alpinisme ou les, j'en sais rien, les sports, l'export extrême. Forcément, on sait qu'on se met dans un risque, mais nous, c'est ça qui nous fait vivre. J'aimerais beaucoup finir ce voyage, si possible l'été prochain, à la fois pour moi, mais aussi pour Julien, pouvoir lui dire qu'on l'a fait quand même.
Les pieds sur terre.
Je suis Patrick Violas, j'ai 59 ans et je suis le fondateur avec mon épouse de ce zoo-refuge, La Tanière. Ici, on n'est pas dans le jugement. On regarde et on essaie d'une solution quand il y a besoin de nous. Notre combat, c'est juste que les animaux soient dans des bonnes conditions et de les soigner quand ils ont besoin de soins. On a entendu parler de Micha pour la première fois il y a 2 ans à peu près. C'était un grand ours. Donc Micha tournait dans les fêtes médiévales, mais surtout dans les boîtes de nuit, les discothèques, les soirées privées. Il avait toujours une chaîne autour du cou, des fois cachée par un espèce de tutu, de foulard, etc. Alors on le sait maintenant, il passait de sa loge là-bas, dans le noir, enfermé, avec des grilles rouillées, au camion, qui n'était pas dans le meilleur état, pour aller faire les spectacles, il revenait dans sa loge. Il n'allait jamais dehors, et de nombreux signalements avaient été faits concernant son état. Suite aux différentes remontées de différentes associations, le lundi 9 septembre, nous avons été contactés par le ministère de l'Environnement, nous demandant si on était en mesure d'aller faire un bilan de santé concernant l'ours Micha. Il se trouve pas très loin de nous, il se trouve à côté de Vendôme, à 1 heure de route environ. Alors, Madame la ministre est intervenue sous la pression de toutes les associations qui avaient déposé plainte et puis qui faisaient beaucoup de bruit. C'était très grave et les signalements étaient sérieux. Le mercredi matin, Florence, notre vétérinaire, et Paolo, un soigneur spécialisé, se sont rendus sur place là-bas, chez monsieur et madame Poliakov, et nous avons pu examiner l'ours Micha assez facilement parce que l'ours Micha était couché dans la paille, il bougeait pas. Il était maigre, il pensait qu'une chose c'est se coucher. Son poil était terne. On s'est aperçu de l'état de ses griffes en sang. Et il avait également de grosses difficultés à respirer. La préfecture du 41 a pris un arrêté demandant à son propriétaire de placer Micha dans un endroit médicalisé. Micha est arrivé ici le samedi après-midi. On a fait les premiers soins. Et puis on a pu également constater que les soins qu'on avait préconisés le mercredi en y allant n'avaient pas été mis en place. On l'a pesé également et on a vu qu'il faisait 160 kilos alors qu'il aurait dû faire entre 250 et 280 kilos. Ça correspond à un humain qui ferait 35-40 kilos. Quoi. Et puis affaibli, complètement affaibli, il ne bougeait pas. Donc on s'est occupé de Micha en urgence absolue, H24, avec le masque à oxygène. Dans lequel on faisait passer un mélange d'antibiotiques. On s'est relayé auprès de lui, avec les soigneurs, pendant 3 jours, 4 jours. C'était pas gagné au bout de 4-5 jours, mais quand il a commencé à reprendre, à manger, etc., on s'est dit, voilà, un animal sauvage, et un animal en règle générale, s'il mange, ça va, quoi. S'il mange pas, on sait qu'il y a un problème. Quelques jours plus tard, Micha a commencé à reprendre un tout petit peu de force. Il avait commencé à manger des fruits, des légumes, des croquettes spéciales pour lui. Et puis les antibiotiques commençaient à faire effet, les anti-inflammatoires également. Donc au bout de 12 jours, on a repesé Micha, il avait déjà repris 9 kilos ou 10 kilos. Il avait une grille dans sa quarantaine, à travers la grille, il venait... Il mettait son nez sur ma main ou sur la main de ses soigneurs, etc. Il sortait sa langue, on lui donnait une petite croquette, un petit truc à manger. Et oui, on avait ce contact-là. On l'a sorti quelques instants, une heure, je crois. Et il a vu notamment une femelle ours qui était juste à côté. Il a gardé les yeux rouges pendant 3 jours. Il était énervé, il redevenait un ours. Donc, on l'avait nettoyé, lavé en plus, son poil était beau. Il retrouvait sa dignité d'ours, quoi. Et puis en même temps, il reprenait des forces, donc on avait de plus en plus de mal à faire... On ne pouvait plus mettre le masque assistance respiratoire comme ça. Il fallait ruser, mettre derrière une grille, cacher une petite croquette qu'il aimait bien, un truc qu'il aimait bien sucré, dans le masque, pour qu'il respire, qu'il attrape. Il mangeait ce qu'il y avait dans le masque, on recommençait comme ça pendant jusqu'à un mois et demi. Au bout d'un mois et demi, on a tenté d'arrêter les antibiotiques, parce qu'on ne peut pas laisser toute sa vie sous antibiotiques. Et puis il avait déjà repris 40 kilos. On a arrêté les antibiotiques et les infections sont revenues. Son problème respiratoire est reparti de plus belle. Donc ça voulait dire que le traitement antibiotique qu'on avait mis n'était pas efficace sur la germe qu'il y avait. Donc il fallait qu'on puisse aller faire un prélèvement à l'intérieur de ses poumons. Et 15 jours plus tard, le vendredi soir, on a anesthésié Michel l'après-midi. Plus on avançait dans l'anesthésie et dans les contrôles, plus on s'apercevait de l'état Micha catastrophique. Plein de tumeurs, cancéreuses un peu partout dans son corps, et puis surtout une boule au niveau de la joue, énorme, comme un demi-pamplemousse, c'est pareil au niveau de ses postérieurs. Quand vous voulez faire travailler un ours qui ne travaille pas, vous le tapez sur la fesse, les mêmes côtés, sur la fesse et sur la joue là, c'était les deux mêmes côtés. C'était uniquement des coups d'hématomes. Pendant l'opération, on s'est regardé avec Florence. Si Micha avait été à nous, on l'aurait pas réveillé. Seulement, Micha ne nous appartenait pas, on ne pouvait pas prendre cette décision. On savait que Micha était condamné à court terme. Et surtout, sa trachée, ici, au niveau du cou, était complètement écrasée. Écrasée, c'est pour ça qu'on avait eu du mal. On avait du mal à aller faire les prélèvements qu'on voulait faire à l'intérieur. Et au moment de se réveiller, il n'a pas pris le relais. Son cœur, ça allait bien, c'est sa respiration qui n'a pas pris le relais, bouchée par la trachée. On l'a massé, on a tout fait, mais c'était trop tard. On peut dire aujourd'hui que c'est sûrement ce qui pouvait y arriver de mieux. Pas se réveiller, de partir comme ça. Il avait retrouvé sa dignité d'ours. Il avait repris, on l'avait pesé juste avant, il avait repris 50 kilos. Il est parti en étant un ours. Voilà.
Je m'appelle Jean-Jacques Camara, j'ai 66 ans, je suis retraité depuis un mois. Donc, j'ai travaillé toute ma carrière à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dans les Pyrénées, là où nous nous trouvons là, maintenant. J'ai travaillé sur l'ours tout ce temps-là. C'est un voisin ici. C'est presque comme un homme sauvage qui me rend visite de temps en temps, qui est extrêmement intelligent, extrêmement robuste. Et il est là, tout comme moi. Et je ne suis ni plus ni moins fait de la même chair que lui. Je partais faire mes recherches sur l'ours. J'avais pas besoin de prendre de voiture ni rien. Je partais à pied depuis chez moi. Je rentrais une semaine, 10 jours après avoir couru les crêtes qui sont au-dessus, les forêts. Je rentrais à la maison ici. Et voilà, donc j'étais vraiment dans ma bulle, au milieu des ours, et avec eux et à les étudier. J'ai identifié Canel, qui n'était pas le dernier ours, c'était en 1993. Mais En 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, c'était la dernière. Donc elle était entourée de toutes les précautions qu'on pouvait lui donner. Et je l'ai identifiée grâce à des appareils de photographie automatique. À l'époque, c'était une technique qui était inconnue en Europe même. Donc, c'est des collègues américains que j'avais visités qui m'avaient montré des appareils artisanaux. Enfin, bon. Donc j'avais ramené ça des États-Unis, j'avais installé ces appareils photo et j'ai pu enfin voir les ours, les animaux en photo. Et je reconnaissais les individus, les uns par rapport aux autres, en fonction de leur taille, de leur couleur. Et un individu, plus petit que les autres, adulte quand même, revenait souvent au même endroit. Et j'ai vu que c'était le même animal et je savais pas trop. Donc on a, avec des généticiens, on a fait des analyses génétiques sur les poils qu'elle avait laissés donc à l'endroit où elle était passée. Là. Et on s'est rendu compte que c'était une femelle. De 70-80 kilos, pas très gros, adulte. Et bon, un soir, je voyais cette couleur de pelage et tout. Ça m'a inspiré la couleur un peu de la cannelle et je l'ai appelée cannelle. Voilà. Elle est devenue assez célèbre, tout compte fait. C'est une femelle qui vivait ici, autour de chez de la maison, ici. Elle vivait dans la forêt qui est au-dessus. Bien évidemment, on s'y attache à ces animaux, puisqu'ils sont quand même très durs à trouver, à détecter, très durs à voir. Et quand on les voit, c'est un peu la fête. C'est vraiment comme des amis qu'on aime beaucoup et qu'on voit rarement. Et cette femelle, donc, moi, je l'ai suivie pendant de 1993 à 2004. En 2004, elle avait un ourson, Canelito. Donc, en novembre 2004, donc il avait 8-9 mois. Et 1er novembre 2004, jour de la Toussaint, c'est là où elle a été abattue lors d'une chasse au sanglier. C'était quelques jours après avoir repéré Cannelle qui était présente donc dans un endroit bien précis, donc j'avais fait passer l'information comme quoi elle était présente à cet endroit-là. Et c'était je crois que c'était un dimanche après-midi, puis mon téléphone a sonné. Et un journaliste m'appelle en me disant est-ce que vous savez que paraît qu'il y a une ours qui a été tuée en Vallée d'Aspe, à Urdos, est-ce que vous êtes au courant ? Là, vraiment, j'ai compris tout de suite que c'était pas un bruit, une rumeur fausse, c'était vraiment. C'était vrai parce que c'était l'endroit où elle était. Et elle s'est retrouvée au milieu de la battue, et les chiens qui l'ont pris en chasse, qui l'ont harassée, elle est allée cacher son ourson, et puis ensuite elle est revenue, comme font les ours d'habitude, pour protéger leur progéniture. Et ben, elle charge, quoi. Elle essaie de faire partir les intrus qui sont venus la déranger dans son recoin, quoi. Alors elle a chargé et puis bon, le chasseur a eu peur. C'était des chasseurs qui n'étaient pas habitués à voir des ours. Donc je pense qu'ils ont eu peur parce qu'ils savaient pas trop. En général, ici dans les vallées, les chasseurs qui ont vu des ours assez fréquemment, qui se sont fait des fois charger, parce que les femelles, souvent, si elles sont dérangées, elles chargent. Et jamais ils tiraient dessus. Ils tiraient à côté, ils tiraient des coups de fusil et puis l'ours partait, quoi. Et là, le gars, il a tiré dessus. Toutes les précautions qu'on prenait, tout le monde essayait, et se retrouver dans une situation comme celle-là, c'est incroyable, quoi. Enfin, on parle beaucoup d'écologie, mais franchement, moi, là ça, les bras m'en sont tombés, et puis ça m'a... J'ai perdu toutes mes illusions quant à la capacité de faire des choses concrètes en matière d'écologie. Hein. J'ai été vraiment très, très, très surpris, quoi. Ça m'a... Autant j'étais motivé avant, autant là, vraiment, je savais plus, j'étais complètement démuni, je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver ces ours? La dernière femelle avec un petit abattu, mais comment est-ce possible? Alors ça m'a traumatisé. Ce pauvre chasseur, enfin je dis ce pauvre parce qu'il a pris sur lui des coups de téléphone, des menaces de mort en permanence, enfin ça a été très dur pour lui, et c'était bon, il ne pouvait pas s'attendre à moins, hein, avoir tué le dernier ours des Pyrénées, hein, c'est quand même pas rien. Voilà, ça a été des procédures à n'en plus finir. Jusqu'au jour du procès, et où là, bon, moi j'ai pas voulu trop charger le gars non plus, parce que je trouvais anormal qu'il y avait d'autres personnes qui n'avaient pas assuré sur ce coup-là, et j'ai désigné un petit peu, bon, que ce soit l'administration ou d'autres personnes qui n'avaient pas assuré non plus, comme moi je trouvais. Ce qui est dommage, c'est que dans ces coins-là, les gars soient allés chasser, ça vraiment c'est incompréhensible, d'une part, et d'autre part, qu'il n'y ait pas eu à l'époque, qu'il n'y ait pas eu d'informations auprès des chasseurs pour essayer de les informer sur la façon de se comporter face à une ours qui charge et tout ça. Ça n'a pas été fait ni rien. Bon. Ça ne devait pas arriver, quoi. Après, le gars, il s'est retrouvé face à cette ours. Bon, le mal était déjà fait, avant qu'il tire même, peut-être. C'est tout. C'était évident, quoi. La dernière femelle avec un ourson, bon, on ne va pas la déranger au mois de novembre, quoi. Hein. C'est avant de rentrer en hibernation. Elle cherche à manger, à se faire de la graisse pour l'hiver. Et donc, c'est une période au cours de laquelle, bon, elle était son jeune et tout. Donc, il fallait bien qu'elle se retape un peu. Voilà. Donc le gars, bon, a été bien sûr condamné.
La défense de l'environnement avait fait appel sur le plan civil. La cour d'appel de Pau l'a condamné aujourd'hui à leur verser près de 11 000 euros de dommages et intérêts. Sport, maison mère.
On s'est appuyé sur le meurtre, si on peut dire, la mort de Canel. Ça a permis de réintroduire des ours dans les Pyrénées centrales. Ça a provoqué l'effet inverse, c'est-à-dire l'effet inverse de la destruction. Ça a provoqué une réintroduction. Je suis pas fier, mais je suis vraiment heureux, quoi, de voir ça, parce que ça va quand même dans le bon sens, et puis je trouve que c'est assez symptomatique de ce qui se passe actuellement dans les rapports entre l'homme et l'animal, l'homme et la nature sauvage. Je suis venu aux ours parce que j'aime la liberté, j'aime la nature, j'aime l'esthétique que procure la nature, mais pas nécessairement pour les ours. Alors évidemment, les ours, c'est la cerise sur le gâteau, c'est vraiment de belles bêtes. Hein. Puis en plus, c'est un fauve. Donc quand on est en face d'un ours, ça impressionne quand même. On s'en rappelle toute sa vie, quoi. Hein. Les randonneurs qui font de la montagne, et tout au long de leur vie, s'ils rencontrent un ours une fois dans leur vie, ils s'en rappellent bien plus que lorsqu'ils ont fait tel ou tel sommet, souvent.
I looked at myself in the river. I looked at myself in a vein. I looked at a figure that grew much thinner. I freed the cross from the chain.
C'était « Ceux qui ont vu l'ours », un reportage de Claudia Prolongeau-Réel, c'est par Yael Mandelbaum, attaché de production Isote Sicard. Merci à Camille Toscani, Patrick Viola, à Jean-Jacques Camara, à Laura Caraballo, à Eric Pelletier, à Frédéric Valton. Et bien sûr, nos pensées à Julien Gauthier, à lire le livre de Nastasia Martin, qui connaît un grand succès, « Croire aux fauves » et à voir surtout « Grizzly Man » de Werner Herzog.